Beurre FM, au cœur des quartiers.
Aujourd'hui, dans le cœur des quartiers, nous partons près de Franconville, dans le 95, à la rencontre de Najim. Najim est un fidèle auditeur de Beurre FM, passionné par le Paris Saint-Germain. Mais Najim, c'est surtout le champion de la Boccia en Ile-de-France. La Boccia est un jeu paralympique qu'il pratique depuis quasiment 14 ans. Bonjour Najim.
Bonjour.
Ça fait longtemps qu'on devait faire cette interview. Je suis très très contente de venir chez toi, directement dans le 95, la ville qui t'a vu grandir. Donc on va retracer un peu ton parcours. Mais avant ça, j'ai envie de savoir comment tu as grandi, Najim. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui sont en train de nous écouter?
Moi, je m'appelle Najim, j'ai 26 ans. Il faut savoir que je suis prématuré. Je suis né à 6 mois. J'ai ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale. Mon quotidien, c'est un peu comme une personne normale. C'est vrai que je travaille pas, tu vois, mon handicap. Mais mon quotidien, il est comme toi un peu. Je me lève le matin, je déjeune. Ça se passe, on s'occupe à droite et à gauche, je fais plein de trucs, même si j'ai cet handicap. Vu que je suis prématuré, il y a une partie de mon cerveau, elle fonctionne pas très bien en fait. Faut se dire, ça veut pas dire que j'ai des problèmes psychologiques ou mentaux, hein. C'est juste la partie qui permet de faire les connexions entre les bras, mes jambes, tout ça.
Et à l'école, du coup, ça donnait quoi? Est-ce que t'étais dans une école spécialisée?
Faut savoir qu'à mon époque, les personnes handicapées, on cherchait pas trop à comprendre. Comme maintenant, actuellement, il y avait pas d'éducation. Si tu veux, les personnes handicapées se retrouvaient entre eux et c'est vrai qu'on ne voyait pas, même à l'extérieur, on ne voyait pas énormément. Déjà, on nous voit très peu, je trouve, soit à la télé ou. C'est là qu'on se rend compte qu'on nous voit très peu, même si de plus en plus, ils essaient de parler d'intégration. Mais pour moi, en fait, l'intégration, c'est pas maintenant que ça doit être fait. C'était déjà il y a très longtemps. Très très lourd en fait.
Je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire parce qu'on parle beaucoup, tu sais, du manque de diversité dans les médias, mais c'est vrai que les personnes en situation de handicap, on les voit quasiment pas et c'est pas du tout normal. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, c'est pas normal. Et moi, pour te dire, je vais te raconter une anecdote. Il y a une personne, m'a dit, ouais, toi, ça se voit que tu as pas eu de chance. T'as un triple handicap. Déjà, t'es d'origine maghrébine, de deux, t'habites dans un quartier et de trois, t'es une personne handicapée. Déjà, quand t'entends ça, tu dis, je vais faire quoi de ça en fait? De toute façon, quoi qu'on fasse, tu auras toujours déjà ils vont critiquer, donc il faut faire ce qu'il y a à faire et puis le reste, c'est pas important, j'ai envie de dire.
T'es une personne en situation de handicap, t'habites dans le 95 et t'es d'origine maghrébine. Malgré ça, en tout cas, sur les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, t'es l'une des personnes les plus motivées, les plus vivantes. On te voit partout, je te vois souvent avec des joueurs du Paris Saint-Germain, par exemple. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je m'en fiche de mon handicap, je me fiche de mes origines, j'ai envie de vivre, j'ai envie de kiffer ma vie?
Moi, j'ai grandi dans un quartier, t'as vu? Et même derrière, dans le quartier, parce que faut savoir que quand j'étais en école spécialisée, j'étais un petit peu genre en internat, tu vois. Je rentrais juste le vendredi et les week-ends. Même toi, quand t'es en bas, quand t'es avec les gens du quartier, mon handicap, je le ressens pas. Parce qu'ils me parlent comme si que j'étais une personne normale, en fait. Et tu vois, moi, je me dis, pourquoi on voit pas des gens comme moi dans plateau télé ou quoi? Parce que je suis apte à échanger, à avoir des discussions, genre avec une Marine Le Pen ou un Eric Zemmour. J'aimerais bien parler avec eux. Toi, en plus, ça peut être intéressant. Le mec handicapé, il vient te montrer ce qu'il a et même si ça, je sais qu'on le verra pas, mais bon.
Mais tu sais pas, ça pourrait peut-être un jour arriver. On n'en sait rien. Aujourd'hui, tu seras écouté chez Beurre FM et qui sait, peut-être que tu seras entendu pour les prochaines élections. Et c'est important, il faut ouvrir la porte aux personnes qui sont en situation de handicap parce que t'es un citoyen français comme un autre. Tu m'as dit, ça me fait du bien de traîner avec les mecs du quartier parce que j'ai l'impression d'être normal avec eux. Mais parce qu'il y a déjà des gens dans la vie qui t'ont fait ressentir que t'étais pas entre guillemets normal.
Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Même quand t'es dans les commerciaux, tu vois, il y a un petit enfant, je chauffe électrique. Mais ça t'intéresse, tu vois. Ah, la petite voiture, elle roule. C'est trop mignon. Moi, une fois, j'ai été vers lui, je lui ai expliqué, c'est pas une voiture, c'est un poney. Et sa mère, elle a dit, faut pas parler avec eux. À force, je fais même pas attention pour moi. C'est triste de dire ça, mais tellement que ça arrive, je fais même pas attention.
Toi, est-ce que t'as envie justement de te battre contre ces clichés, stéréotypes qu'on fait sur les personnes en situation de handicap?
Dans ce premier temps, je me bats par rapport à ça. Je trouve que c'est pas normal. Pour moi, j'ai entièrement ma place autant que toi, autant que n'importe qui, en fait.
On va essayer de revenir cette fois-ci sur ton parcours scolaire. À quoi il a ressemblé, du coup, ce parcours scolaire? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce que t'avais des bonnes notes? Est-ce que l'école, c'était quelque chose qui t'intéressait ou pas du tout? Je te vois rire.
Ça m'intéressait pas vraiment, mais bon. Après voilà, vu que j'étais en école spécialisée, c'était des cours un peu. En fait, c'était un peu. C'était un peu genre spécial, t'as vu? Genre, ils prenaient le temps pour nous expliquer tout ça. Quand on dit école spécialisée, c'était plus juste les profs, ils prenaient plus le temps pour être avec nous, etc. Alors qu'en parcours ordinaire, ils n'ont pas ce temps-là. On m'a proposé de soit faire le sport à fond, ou soit de recommencer un peu mes études, genre de partir au lycée, être intégré. Mais genre, t'as vu, on m'a proposé ça, j'étais déjà vu un peu, tu vois. J'avais déjà 16 ans et tout ça, je ne me voyais pas recommencer tout pour venir au lycée. Du coup, j'ai changé de sport.
Et la boca, c'est venu comment dans ta vie? C'était justement dans cet internat que tu as découvert ce sport, ou c'est quelque chose qui t'a intéressé derrière et puis tu as voulu peut-être te lancer là-dedans?
Non, en fait, au début, j'ai commencé à me loisir, au tout début. Après, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de compétition au début. En France, ça n'existait pas trop. Mais moi, au début, j'ai dit, vas-y, je fais de la compétition, comme ça, on va faire des sorties. Tu vois, ça faisait une sortie, en fait. En fait, vas-y, je me suis prolongé, et voilà, aujourd'hui.
Et c'est devenu vraiment une passion, parce que je rappelle aux auditeurs qui sont en train de nous écouter que tu es champion d'Île-de-France depuis 3-4 ans, si je dis pas de bêtises.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Ok, et comment c'est devenu vraiment une passion et t'as commencé à être à fond, au taquet, à vouloir faire les compétitions? Comment ça t'est venu, ça, d'un coup?
Bah, force de s'entraîner, de voir que t'avais la possibilité. Tous mes coachs, ils me disaient, continue, j'ai un potentiel à travailler derrière. En plus, faut savoir que c'est l'un des seuls sports que les personnes dites lourdement handicapées font pratiquer. Faire l'Olympique aussi, et de dire qu'avec le travail, on peut être sélectionné pour faire les Jeux Paralympiques, qui est pour moi l'un des meilleurs événements sportifs au monde, c'est quand même extraordinaire.
Et justement, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être qui découvrent la boca ce matin, tu peux leur expliquer ce que c'est et comment ça se joue?
Pour faire simple, la pétanque. J'aime pas dire ça parce que moi, je vois plus ça comme un jeu de stratégie, faut mettre en échec son adversaire, etc. Mais c'est la pétanque, c'est le principe. C'est le pétanque en tout cas. C'est les meilleurs joueurs de chaque région, ils se regroupent. Après, il y a les tirages au sort, il y a les phases de poule. Après, c'est comme une compétition classique, j'ai envie de dire. Tu rencontres beaucoup de monde. Il y en a qui ont le même handicap que toi. Il y en a d'autres, c'est un handicap plus important. Il y en a qui connaissaient pas le milieu d'handicap et à force d'un stage, ils sont intéressés à ce milieu-là. Tu rencontres plein de personnes en fait. Déjà, quand t'as pas d'handicap et quand tu viens des quartiers, t'es obligé de faire plus que les autres. Alors que moi, c'est limite, je suis obligé de faire. Fois plus que les autres.
Du haut de tes 26 ans, bientôt 27, est-ce que t'es fier de ton parcours?
Pas encore fier, parce que pour moi, j'ai rien accompli encore. Ça veut dire que c'est le début que je suis en train de travailler en fait. Pour moi, je peux pas être fier parce que j'ai rien fait encore. Même si pour d'autres, ça va paraître fou ce que j'ai fait, mais pour moi, c'est rien en fait. Pour moi, pour être fier, c'est encore trop peu. Le jour où il y aura des grandes choses, comme par exemple un titre de champion de France ou une première sortie à l'international en équipe de France, là oui, c'est un truc vraiment fort et je pourrais être fier.
Et l'objectif justement, c'est d'être champion de France et par la suite représenter la France à l'international?
Ouais, bien sûr, exactement. Je m'entraîne plusieurs fois. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Hein. Même si pour moi, tu me dirais que c'est pas ça mon goût, 5 fois par semaine. Pour l'anecdote, je regarde même les vidéos à l'international.
J'ai une petite séquence au cœur des quartiers qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Et je vais te poser 3 petites questions. Et il va falloir que tu me répondes du tac au tac, vraiment. Ce qui te vient à l'esprit, la première chose qui te vient en tête, est-ce que ça te va?
Ouais, pas de problème.
Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a extrêmement touché?
En fait, je me suis tellement protégé que il y a peu de choses, ça me blesse en fait. J'ai cette carapace en fait, un petit peu en arrière. Donc peu importe que je peux entendre tout ça, ça me blessera pas.
Et qui est la personne qui t'a le plus soutenu? Qui est cette personne qui a toujours été là?
Il y a énormément de personnes. Je commence par mes parents déjà, mes frères et sœurs. Il y a certains vraiment très proches des. J'appelle ça, c'est vraiment des frères. C'est pas mes frères. Ils ont pas le même sort que moi, mais c'est mes frères. Après, il y a surtout. C'est des entraîneurs aussi. Parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des moments où ça va pas trop, on baisse de régime, on se pose plein de questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que ça paye un jour? Au final, ils ont été derrière moi à dire non, faut pas lâcher, faut continuer. Et... ouais, c'est grâce à eux aussi. C'est vrai que de ce côté-là, contrairement à d'autres personnes, je dois pas me plaindre. J'ai beaucoup de personnes autour de moi en fait. C'est le jour où ils seront plus là qu'on se rendra compte que ouais, j'ai énormément de chance. J'attends pas le dernier moment pour leur dire merci en fait.
Qui est la personne qui t'inspire le plus? Est-ce qu'il y a un champion, le champion du monde de la boca peut-être? Ou je sais pas, un footballeur, toi qui es fan du PSG?
La Presnel Kimpembe. Déjà dans sa force mentale, dans sa façon d'être, dans sa façon de travailler. Il montre que ouais, ça a été dur mais il est là. Et mes parents aussi, je suis arrivé très jeune. Maroc, ça rapproche. Si ils l'ont fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire?
C'est beau ce que tu dis parce que tu m'as cité un footballeur, mais t'oublies pas aussi tes parents qui ont traversé la Méditerranée, qui sont venus du Maroc pour faire leur vie ici, pour essayer de vous offrir le meilleur avenir possible. Donc c'est bien parce que tu cites différents profils et différents types de réussite.
Sur les premiers que je vois, c'était mes parents. Donc forcément, je suis bien obligé de transmettre ce message. La réussite, c'est un mot qui est très vague en fait. Mais moi, la réussite, je dirais, c'est pas avoir de l'argent, une grosse voiture, tout ça. C'est déjà d'être bien, d'être heureux. Après, le reste, je vais vous dire, le reste, c'est que plus. c'est la santé le plus important d'un premier temps.
J'ai une dernière petite question que j'aimerais te poser, ou c'est plutôt un message que j'ai envie que tu donnes aux personnes qui sont en train de nous écouter. Quel message t'aimerais leur donner pour continuer à les motiver dans chaque... peut-être qu'eux, ils veulent se lancer dans une carrière sportive ou dans des études poussées. Quel est le message que t'aimerais laisser à ces personnes-là pour les motiver?
J'ai envie de vous dire, faites, ça passe pas, on peut faire autre chose. Mais faites pour ne pas regretter, en fait. Je pense que le plus compliqué, c'est ça, c'est de regretter, de dire « Ah merde, j'ai pas été jusqu'au bout de ça !» Alors que oui, au final, peut-être que j'aurais pu. Mais vu que tu l'as pas fait, il y a un peu de regret. Je pense que c'est la pire chose. Le regret, ça tue.
Merci beaucoup, Najim. J'étais très honorée de te recevoir dans Cœur des Quartiers, de t'avoir parmi nous et de donner beaucoup, beaucoup d'espoir et montrer surtout ta détermination et ta motivation aux gens. Comme quoi, peu importe le statut social, le milieu social, la situation dans laquelle on se trouve, la réussite, elle est à la portée de tout le monde.
Bien sûr, elle a apporté de n'importe qui, j'ai envie de dire. Merci à toi, avec plaisir.
C'était Au cœur des quartiers, avec le soutien du ministère chargé de la ville.